à tous et bienvenue. L'émission Compte-Gouttes se confine, mais se transforme. Je suis Caroline et je vous raconte une ou deux histoires tous les jours à 14h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Profitez-en pour endormir vos enfants, augmenter le sonotone de belle-maman, profitez-en pour rêver et voyager. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, on ne sera jamais à court d'histoire, car les contes, c'est comme l'eau de la mer. Tu peux en prendre autant que tu voudras, jamais le niveau ne baissera. Aujourd'hui, pour continuer notre grand voyage immobile, je vous propose d'aller faire un tour du côté des Indiens d'Amérique. Et puis on va revenir à l'essentiel, on va revenir au feu et à l'eau. Et pour commencer, voici le mythe du feu. Tout le pays indien était baigné par les rayons du soleil, sauf la vallée profonde. Là, le dur hiver continuait à régner sans trêve. Tous les animaux restaient à sa merci, à la seule exception de l'ours à la fourrure épaisse et hirsute. Par une nuit mémorable, une tempête terrible éclata. Elle pliait et déracinait les arbres, décelait les rochers, détruisait tout sur son passage. Pourtant, au centre de la grande eau, sur un minuscule îlot, un sycomore solitaire lui résistait. Sans paraître prêter la moindre attention à l'ouragan déchaîné, il se moquait de lui en fredonnant une joyeuse chanson sur les beautés de l'été. Cette outrecuidance ne fit que renforcer la fureur de la tempête. « Je te tuerai !» hurla-t-elle en lançant un éclair de feu au cœur même du brave sycomore. Mais voilà que, merveille des merveilles, même alors le chant impertinent ne cessa pas de se faire entendre. Le feu, qu'il avait cueilli au cœur du sycomore, le fit passer aux vagues du lac qui à leur tour se le transmirent jusqu'au rivage et de là il s'élança au loin à travers les champs. Entre-temps, la tempête s'était apaisée. L'aube allait bientôt poindre, alors, laissant la désolation derrière elle, elle avait pris la direction du nord. Le tonnerre traînait encore un peu dans les parages, épiant toujours le sycomore foudroyé. L'arbre ne chantait plus. Son tronc et ses branches achevaient de se consumer, tandis qu'une colonne de fumée bleue montait vers le ciel. Les animaux de la vallée profonde remarquèrent bientôt cette fumée. Le faucon s'éleva bien haut dans les airs pour voir d'où elle provenait. « Au feu ! » cria-t-il à ceux d'en bas. « Il y a le feu dans l'île !»« Comment est-il, ce feu ?» demandèrent les autres, qui ne voyaient que la fumée. « Il est rouge, et jaune, et il chante, et c'est tout ce que j'en sais !» répondit le faucon. L'araignée dit alors, « Le feu, c'est notre ami. Si nous l'amenons ici, il nous tiendra chaud. Voulez-vous que j'aille le chercher ?»« Toi ?» Le hibou éclatait d'un rire moqueur. Tes pattes sont si tordues qu'il te faudrait le temps d'une somme de marmottes pour aller et revenir. J'irai moi-même. » Et le hibou, déployant largement ses ailes, s'envola dans la direction de l'île. Toutefois, rapporter le feu, cela s'avéra une tâche bien plus difficile qu'il ne l'avait cru. Lorsqu'il voulut ramasser une braise incandescente, notre hibou se brûla les griffes et lâcha bien vite son butin. Ses plumes étaient aussi un peu roussies et il fut tout heureux de rentrer au bercail sans plus de dégâts. Désolé, il se posa sur une branche et dit à ses concitoyens pour s'excuser. « Le feu ne veut rien avoir à faire avec nous. Il n'a même pas daigné me parler et il a bien failli me tuer. « Moi, j'ai la peau dure, » se vanta le serpent à sonnette. « Je vais y aller et voir ce que je peux faire pour vous apporter le feu. » Mais lui aussi revint bien vite, chassé par les cruelles morsures du feu. Le feu a des pouvoirs extraordinaires, exposa-t-il aux autres qui étaient déçus de le voir revenir sans rien. Il m'a brûlé sur tout le corps, me portant en rouge. Personne n'arrivera à le faire quitter l'île. Et moi alors, vous m'avez oublié ? Dit l'araignée. Moi aussi j'ai des pouvoirs extraordinaires. Qui sait ? Peut-être que je vais y arriver. En tout cas, moi, je sais comment m'y prendre. À vrai dire, personne n'ajoutait foi à ces paroles, mais aucune des bêtes présentes ne persista à se moquer. Tout était bien curieuse de voir comment ferait l'araignée pour tenir sa promesse. Elle ne semblait pas pressée de partir. Elle s'enfuit d'abord dans un coin, ramassa un gros paquet qu'elle ficela méticuleusement avant de le jeter sur son dos. Ainsi parée, elle mit le cap sur l'île. Le trajet lui prit beaucoup de temps et d'efforts. Ses pattes crochues ne passaient pas sans difficulté par-dessus les obstacles, et quand elle plongea dans le lac, les vagues la rejetaient d'un côté à l'autre. Avec le poids de son paquet, elle avait fort à faire pour se maintenir à flot. Bref, elle fut rudement soulagée quand elle sentit la terre ferme sous ses pattes et sans même reprendre haleine, elle gagna le centre de l'île. Là, elle dut souffler un instant, mais ensuite elle se mit à l'œuvre avec décision. Elle retira de son paquet, qui était une pelote, le bout d'un long, très long fil. Petit à petit, elle se mit à l'enrouler autour d'un tison choisi parmi les plus ardents. Ce faisant, elle exécutait une de ces danses magiques connues des araignées pour empêcher le feu de brûler le fil. Quand le tison fut bien embobiné, langé comme un poupon, elle le plaça au creux de son paquet pelote et, chargeant son précieux butin, elle prit le chemin du retour. Tous les animaux l'attendaient avec la plus grande impatience. À son arrivée, ils l'entourèrent, se bousculant pour être parmi les premiers à savoir comment elle s'en était tirée. L'araignée secoua alors son paquet pour en faire sortir le tison ardent, et ce faisant, elle leur dit « Le brave sycomore nous adresse un ami qui nous tiendra chaud, même au cœur de l'hiver le plus glacial. Mais ce feu, il faut sans cesse le soigner et le nourrir, sinon il s'éteindra. »« Il ne mange pas trop ?» dit le hamster, craignant pour ses provisions. « Rassure-toi, le feu ne mange que du bois sec, » lui dit l'araignée rassurante. « Mais tout le bois est mouillé après cet orage !»« Je lui donnerai mon écorce, » dit le bouleau. « Même trempée, elle brûle bien. » Et tout en parlant, il fit tomber de son tronc un grand lambeau d'écorce blanche. L'écureuil en arracha une lamelle qu'il approcha de la braise. Une langue de feu d'un jaune rougeâtre se forma, se développa et devint de plus en plus haute et claire, chassant le froid. Depuis lors, le feu ne s'est jamais éteint dans la vallée profonde. L'écureuil le soigne durant le jour et le soir venu, toutes les bêtes se rassemblent tout autour et chantent en chœur un refrain que vous aussi, vous pourrez entendre si vous l'écoutez bien.
Rest your eyes.
maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le mythe du feu, je vous propose de vous intéresser à l'eau avec ce conte intitulé Le Déluge. Un jour d'hiver, en ce temps-là, le monde était encore très jeune et inexpérimenté. Voilà qu'il se met à neiger. À neiger fort, très, très fort. Sans cesse, un flocon après l'autre tombait du ciel. Le pays avait changé au point qu'on ne le reconnaissait plus. La neige avait effacé les sentiers familiers, elle remplissait les vallées, recouvrait les rivières, devenue invisible sous le manteau blanc. Bien à l'abri, dans une tente faite de peaux de bête, les animaux faisaient cercle autour d'un beau feu. Ils discutaient d'un grave problème. Comment ramener le beau temps qui avait disparu on ne savait où? Ils avaient beau se creuser la cervelle, il ne leur venait aucune idée valable. À la fin, l'écureuil fit la sage proposition suivante. « La nuit tombe, le feu est fatigué, il ne chante plus, allons nous coucher. La nuit porte conseil, demain matin, nos idées seront plus claires. » Les autres animaux étaient allés dormir pour de bon. L'écureuil s'allongea tout près du feu, le menton posé sur ses pattes de devant. Bercé par les vagues de chaleur encore dégagées par le feu mourant et les caresses du vent léger passant par la porte ouverte, il eut un rêve étrange. Il vit un ours errant par le monde, un ours ressemblant comme un frère à celui qui vivait de l'autre côté du lac. Et cet ours entassait dans un grand sac tout ce qu'il pouvait trouver sur son chemin. Il avait là-dedans des champignons, du miel d'abeille et le beau temps. Il suffisait donc de prendre ce sac à l'ours et de l'ouvrir pour libérer le beau temps. L'écureuil se frotta les yeux pour s'éveiller et vite, pour être sûr de ne pas oublier son rêve, il appela. « Tout le monde debout! Je sais qui nous a pris le beau temps !» Sa voix réveilla même le blaireau, bien connu pour sa capacité de dormir en toutes circonstances. Comme les autres, il se leva et prêta une oreille attentive à ce que disait l'écureuil tout excité. « J'ai vu en rêve l'ours qui cache le beau temps dans un sac. Allons l'attraper !»« Prenons le canot pour traverser le lac !» proposa le renard. D'un même élan, ils se précipitèrent hors du vigvam, lancèrent leur embarcation à flot et voguèrent vers l'autre rive en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. La tanière de l'ours semblait déserte. Ils hésitaient avant d'entrer, mais tout semblait silencieux et calme à l'intérieur. L'écureuil se décida le premier à jeter un coup d'œil là-dedans. Aussitôt, il poussa des cris de joie. Le sac était là dans un coin tel qu'il l'avait vu dans son rêve. Il appela les autres. « Vite, venez me donner un coup de main !» Le sac était très lourd. Seul le caribou parvint à le soulever. Il le transporta dans le canot, suivi de tous les autres. « Quand l'ours rentrera, il comprendra ce qui s'est passé, il va nous courir après !» dit le renard. « Qui, parmi nous, a les dents les plus aiguës ?»«
Moi ?»«
Toi, souris ?»«
Oui, c'est moi qui ai les dents les plus aiguës !»
répéta fièrement la petite souris. « Bon, d'accord, alors va ronger la pagaie de l'ours et arrange-toi pour que ça ne se voit pas. » La souris se mit aussitôt à ronger la pagaie pour y faire un trou à l'endroit où elle s'élargit. « Vite, vite !» la pressaient les autres bêtes, car déjà l'on pouvait entendre les grognements de l'ours qui revenait au logis. La souris n'eut pas le temps d'achever son travail car le pas pesant de l'ours se rapprochait. Elle prit la fuite et sauta dans le canot où ses amis l'attendaient, anxieux. Ils avaient à peine quitté la rive lorsque des grognements furieux parvinrent à leurs oreilles. L'ours avait découvert le vol.
« Attendez que je vous attrape, vous allez voir !» hurlait l'ours.
Saisissant sa pagaie d'une patte, il lança son canot de l'autre et se mit à pagayer tant et plus. À chaque coup, il gagnait du terrain. Encore un coup de rame, il les rattrape. Fort heureusement pour nos amis, c'est juste à ce moment que la pagaie rongée céda. L'ours, perdant l'équilibre, tomba à l'eau et se noya, tandis que son canot restait la quille en l'air. Nos petits amis se sentirent fort soulagés. Dès qu'ils abordèrent à leur rive, le caribou traîna le sac sur la grève et en défit aussitôt les liens. Le beau temps bondit sans hésiter à l'air libre et se mit à couvrir toute la région. La neige fondit rapidement, mais voilà qu'alors il y eut trop d'eau partout. Les ruisseaux et les rivières se rejoignaient, formant de grands fleuves qui inondèrent toute la vallée. Le lac déborda lui aussi et les eaux emportaient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Les animaux se rassemblèrent sur le sommet de la plus haute montagne. C'était le seul refuge qu'il leur resta.
Le déluge. Seul le sommet de cette montagne émergeait de l'immense surface liquide. Les animaux tinrent conseil. Il s'agissait d'étudier le moyen de se sauver. Ils avaient d'abord espéré que l'eau se retirait petit à petit, mais il n'en était rien. La loutre fit une proposition. « Je vais plonger et rapporter de la terre, sinon nous allons tous mourir ici. » Après avoir pris une inspiration profonde, elle disparut sous l'eau. Elle fut longue à réapparaître à la surface, ses amis commençaient à s'inquiéter. Enfin, lorsqu'elle émergea, s'ébrouant et crachant, elle leur dit « Désolée, je n'ai pas pu atteindre le fond, il faut que quelqu'un d'autre essaie à son tour. » Le brochet se présenta comme volontaire. Il resta encore plus longtemps sous l'eau, mais n'eut pas plus de succès que la loutre. Alors ce fut le tour du canard. Il plongea et descendit comme une pierre. Son voyage vers les profondeurs semblait sans fin. Il était déjà fait à l'idée de remonter bredouille lorsque soudain, il sentit le fond. Prenant entre ses palmes autant de terre qu'il pouvait, il remonta bien vite à la surface car il était près de l'asphyxie. À vrai dire, il n'y avait qu'une toute petite quantité de terre entre ses pieds palmés. Mais au moins, il avait trouvé le bon endroit et pouvait guider les autres. Et c'est ainsi que les bêtes aquatiques, unissant leurs efforts, ont rapporté toute la terre indienne du fond des eaux. Puis elles ont regagné chacune son logis, heureuses d'avoir triomphé du déluge. C'était l'émission Compte-gouttes enregistrée depuis la maison. Portez-vous bien et à demain.